Et ce matin, direction la Turquie, qui tente de tirer son épingle du jeu dans le conflit au Moyen-Orient. On en parle avec notre invité. Bonjour Denise Hunal.
Bonjour.
Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes économiste CEPI, spécialiste de la Turquie, avec moi pour vous interroger, Annalisa Capellini. On voit que les tensions dans le Golfe ont affaibli un certain hub économique de la région. C'est le cas de Dubaï, on en a parlé aux Émirats Arabes Unis. Denise Hunal, est-ce que la Turquie en profite déjà pour attirer des capitaux étrangers, notamment à Istanbul?
Elle essaie, mais visiblement les capitaux qui sont partis de Dubaï se sont orientés plutôt vers Singapour et vers la Suisse. Mais la Turquie a des grandes espérances parce qu'il y a un centre financier important à Istanbul et son idée est de le transformer maintenant comme un centre financier pratiquement mondial. Mais ce n'est pas dit qu'elle va pouvoir réussir.
Parce qu'il reste un problème majeur, c'est l'inflation qui baisse, elle est à 32% sur un an, mais elle n'est pas totalement maîtrisée. Est-ce que la Turquie y arrive petit à petit ?
Les derniers chiffres de l'inflation en Turquie ont été une surprise parce que, indépendamment de la guerre, elles étaient élevées. On s'attendait à moindre, donc on était autour de 32%. Et on ne voit pas l'issue pour le moment à ce conflit. Et c'est quelque chose qui va peser sur les finances turques parce que la Turquie s'endette beaucoup et sa monnaie n'est pas une monnaie forte. Donc c'est vraiment une préoccupation qui n'est pas encore résolue et les Turcs n'ont pas pu encore arriver à ce que, par exemple, les pays d'Amérique latine comme Brésil, Mexique ont réussi à faire.
On sait que c'est un grand problème pour les Turcs. On estime qu'à peu près pour un Turc sur trois, le principal problème est le coût de la vie. Donc finalement,
exactement,
ça pèse au quotidien.
Exactement, le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat. Et c'est très important pour les élections prochaines en 2027, législatives et présidentielles, pour AKP et Recep Tayyip Erdogan. C'est vraiment... la Turquie souffre beaucoup d'autocratie, mais les gens qui votent pense plutôt à l'inflation et au pouvoir d'achat.
L'inflation, la stabilité financière, peut-être plus largement, avec une économie turque qui est quand même instable, fragile, ça rebute un petit peu peut-être les investisseurs, les entreprises à venir s'installer, vous le disiez, qui vont préférer Singapour dans la région qui propose plus de stabilité, plus de confiance.
L'un des problèmes, c'est vraiment l'instabilité du cadre juridique en Turquie. Il y a un problème de séparation des pouvoirs. Et pour les entreprises turques, qui sont aussi parfois donc des entreprises multinationales, il y a des problèmes juridiques où ils peuvent se trouver du jour au lendemain avec des dirigeants accusés. C'est arrivé aux deux dirigeants, au secrétaire général et son adjoint de la MEDEF turque, TÜSİAD.
Et ça, ce n'est pas prêt de changer ?
Pour le moment, on ne voit pas de changement. En revanche, la Turquie, il faut revenir maintenant dans le contexte géopolitique, a un atout majeur, une industrie de la défense qui commence à devenir très importante. Et actuellement, en économie, la Turquie essaie de réorganiser sa structure industrielle qui est importante, c'est un pays manufacturier, autour de la défense. Et la guerre lui a donné beaucoup d'atouts.
Avec des pôles d'activité où on est essentiellement concentré sur Istanbul qui reste...
C'est dans tous les pays, aux alentours d'Ankara aussi, ouais. Dans tous les pays. Et c'est une industrie, en Europe, on parle beaucoup des drones Bayraktar turcs, mais en réalité, c'est une industrie très diversifiée dans tous les corps de l'armée. Vous avez énormément de production de tanks, de navires, maintenant des missiles balistiques. Il y a quelques jours, la semaine dernière, justement, la Turquie a annoncé la production d'une missile balistique intercontinentale. Et cette économie est en négociation avec deux grands pays européens comme le Royaume-Uni, l'Italie. C'est pas en négociation, je dois dire, plutôt en coopération dans le domaine militaire.
Denise Hunal, vous évoquez le rôle industriel de la Turquie. La Turquie essaie aussi de jouer un rôle diplomatique dans ce conflit avec cette posture de médiateur qu'on a déjà vu dans plusieurs autres conflits, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quel est l'avantage pour Erdogan d'adopter cette posture-là de médiateur ?
L'avantage, déjà, c'est éviter la guerre. Ça, la Turquie ne veut surtout entrer dans la guerre.
La Turquie qui n'a pas été frappée, hein, pour le coup, dans ce conflit.
Si, elle a été frappée, je ne sais plus combien de fois.
Ah bon.
Au moins 3-4 fois. Mais ce sont, la Turquie accueille des bases de l'OTAN. Vous savez, donc son armée, en termes de nombre de soldats, c'est le deuxième de l'OTAN. Mais aussi, je crois que c'est le deuxième pays qui accueille autant de bases de l'OTAN. Et donc, c'est en tout cas, il y a des bases très importantes qui sont aussi pointées vers l'Iran. Donc, il y a eu quelques missiles qui ont touché, mais c'est l'OTAN qui a répondu, pas les Turcs. Mmh. Donc ça rend plutôt complexe la situation.
Denis Sunal, il y a aussi une forte présence turque en Afrique. On en parle ce matin avec la présence d'Emmanuel Macron sur le continent, avec des annonces de contrats, 23 milliards au total. La Turquie exporte du gaz, du pétrole, notamment, enfin en tout cas, fait de l'exploration gazière et pétrolière au large de la Somalie. C'est un sujet qui est bien identifié par Emmanuel Macron, qui est en Afrique cette semaine pour y défendre les investissements français et européen avec le continent, qui veut reprendre des parts de marché aux Chinois et aux Turcs, qui en fait ces dernières années se sont quand même bien implantés.
Oui, la Turquie est une puissance moyenne présente en Afrique, et effectivement ses intérêts sont allés contre ceux de la France. Dans beaucoup de pays où la France a dû se retirer, la Turquie est présente, notamment par des exportations de matériel militaire. Mais la Turquie, en même temps, a besoin des anciennes puissances comme la France pour pouvoir trouver des nouveaux marchés. Donc, il y a la Turquie a énormément de bases militaires en Afrique. Mais je crois qu'une coopération n'est pas impossible. Les deux pays s'affrontent dans plusieurs domaines, aussi bien en Afrique, au Moyen-Orient et que dans le sud de la Caucase, mais ont toujours gardé le contact pour avoir une coopération.
Annalisa.
Tous ces projets de la Turquie pourraient être mis à mal par le contexte intérieur qu'on évoquait il y a un instant, donc sur l'inflation. Mais il y a aussi la question d'un possible exode migratoire des Iraniens si le régime venait à s'effondrer. C'est un peu la crainte d'Erdogan en ce moment. Est-ce qu'il y a un vrai risque ?
On pensait qu'il y avait un vrai risque, mais le fait est que depuis le début de la guerre, il n'y a pas eu vraiment de migration notable. D'autant plus que la Turquie s'était préparée. Il y a un mur maintenant le long de la frontière turco-iranienne. Je pense que ça marche. Mais j'ai aussi suivi en Arménie. On attendait à autant de réfugiés. Ça n'a pas eu lieu.
Merci beaucoup, Denis Sunal, économiste au CEPI, spécialiste de la Turquie, d'être venu nous parler de ce sujet ce matin.